Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal présenté par Gisèle Cage.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de ce journal. Commençons par le titre. Alerte au choléra à Uvira, Sud-Kivu. L'insécurité croissante dans la région aggrave la propagation de la maladie. Le nombre de cas augmente dans la plaine de Ruzizi où 80% des personnes touchées sont des militaires cantonnés dans des conditions hygiéniques déplorables. Mission en Israël. Le président de l'Assemblée nationale alerte son homologue israélien sur l'agression du Rwanda via le M23 et la menace des ADF. Vital Kamerhe propose des discussions directes avec le Rwanda pour restaurer la paix dans la région. Formation des femmes leaders. Une trentaine de femmes de la RDC formées pour construire des démocraties résilientes. Dominique Munongo, initiatrice de l'atelier, nous en parle en détail. Elle est notre invitée. C'est tout pour le titre. Ce journal s'ouvre par une alerte en provenance du Sud Kivu. Malgré une baisse des cas de choléra à Uvira, la menace de propagation reste élevée en raison de l'insécurité croissante dans la région. Dans la plaine de Ruzizi, le nombre de cas augmente avec 80% des personnes touchées qui sont donc de militaires cantonnés dans des conditions hygiéniques déplorables. Plus de détails avec Rachel Kiesse.
Aujourd'hui, la ville d'Uvira n'est plus tellement exposée au choléra comme c'était le cas pendant la semaine 9, c'est-à-dire la période allant du 24 au 28 février. En cette période, la zone de santé d'Uvira avait enregistré plus de 60 cas et 2 décès. La plupart des malades recensés étaient constitués à 80% des militaires qui étaient cantonnés dans la ville d'Uvira dans des conditions hygiéniques déplorables. Depuis que le camp qu'ils occupaient a été désengorgé, les cas de choléra ont commencé à baisser. On est actuellement à moins de 10 cas, a-t-on appris des sources médicales qui suivent la situation de très près. La délocalisation de plusieurs dizaines des policiers congolais qui étaient entassés à la prison centrale d'Uvira a aussi contribué à la stabilisation du choléra. Toutefois, le climat des affrontements qui prévaut dans la plaine de la Ruzizi ne permet pas aux intervenants contre le choléra à baisser la garde. Un cas de la plaine avait déjà été enregistré par la zone de santé d'Uvira.
En Nord Kivu, l'hôpital de Keshiro à Goma rappelle son personnel les mesures de sécurité à observer pour protéger le patient et eux-mêmes. Ce rappel est détaillé dans le communiqué daté du 1er mars signé par la direction de cette structure sanitaire affiliée à l'église 8e CEPAC. Reportage rendu par Sifa Maguru.
Succinctement, le communiqué comporte 5 dispositions. Le port et la tenue des services est obligatoire pendant les heures de travail au moment de la garde comme les jours et la permanence. Avoir sa carte de service à tout moment et en tout lieu est une bonne mesure de prudence. L'identification de tous les malades hospitalisés et leur garde est exigée par les services. Prester chacun à son poste de service selon l'horaire reste de strict respect. Le respect des heures de visite est à observer vigoureusement. Les responsables de l'hôpital de Keshiro que nous avons contactés indiquent que ce communiqué est juste une note de services internes visant à améliorer les services à rendre aux patients qui fréquentent la structure sanitaire. Toutefois, la proximité avec les incidents survenus dans les hôpitaux Île-Africa, Sebeka Ndosho et Sebeka Virunga fait penser que l'hôpital de Keshiro voudrait prévenir un traitement identique. Pour rappel, des témoignages ont rapporté ces derniers jours des cas d'irruption dans certains hôpitaux d'hommes armés identifiés comme les rebelles du M23. Des malades, des blessés, des gardes malades, voire certains membres du personnel soignant ont été amenés par ces individus vers une destination inconnue.
Santé toujours, plus de 60 patients, dont des femmes ayant subi des césariennes et du personnel soignant, ont quitté l'hôpital général de référence de Chomia, situé à environ 60 km au sud de Bunia, dans la province de l'Ituri. Cette évacuation fait suite à une recrudescence de l'insécurité sur le littoral du lac Albert depuis la semaine dernière. Les autorités sanitaires signalent que cette situation perturbe gravement le fonctionnement de l'établissement médical. Le point avec Jean-Claude Loki Dilé.
Entre 60 et 80% de la population a quitté la zone à cause de l'insécurité, ce qui fait que l'hôpital général des références de Tchoumia n'est presque plus fréquenté par des malades. D'une capacité d'accueil de 100 lits, seuls 11 patients sont restés, affirme notre source. Il s'agit soit des malades qui n'ont nulle part où aller, soit ceux qui ne peuvent pas se mouvoir à cause de leur état. À ce jour, une soixantaine de malades ont fui, parmi lesquels des femmes qui ont subi de césariennes et d'autres qui étaient dans un état critique aux soins intensifs. Même les activités de vaccination, de consultation prénatale sont affectées. De nombreux patients sont partis sans même payer les factures de soins. Cette situation affecte également 5 aires de santé situées dans la périphérie où les habitants n'ont pas d'endroit de se faire soigner. Il s'agit de Jo, Bi, Torges, Nyamamba et Kahoa. Si cette situation perdure, nous risquons de vivre l'augmentation des cas de choléra, de paludisme, mais aussi de malnutrition, s'inquiète le docteur Hervé Bavi, le médecin chef des zones de santé de Tchoumia, Bounia, Jean-Claude Loki, dit les Radio Okapi.
En lien avec la guerre du M23 et leurs alliés RDF, des déplacés en provenance du nord et sud Kivu affluent massivement vers la cité de Kabimba, dans les territoires de Kalemie, province du Tanganyika. Des sources locales signalent que cette situation provoque une hausse de prix des denrées alimentaires et de transport, ainsi qu'une augmentation de loyers ce dernier jour. Explication avec Paulin Munanga.
Depuis quelques semaines, des bateaux accostent au port de Kabimba en provenance des deux Kivu, avec plusieurs déplacés fuyant la guerre. La présence de plusieurs personnes à Kabimba influe sur la vie socio-économique de la population, rapporte des témoins. Il y a hausse des prix des biens et des services. Par exemple, un sac de 25 kilos de la farine de maïs qui coûtait 25 000 francs congolais se négocie actuellement à 40 000 francs congolais, voire 45 000 francs. Le prix d'une course entre la cité de Kabimba et la ville de Kalemie est passé de 15 000 francs congolais à 30 000 francs congolais, voire 35 000 francs. D'après des sources locales, cette présence massive de déplacés accroît la demande des biens et des services, ce qui occasionne la spéculation des prix sur les marchés. Un habitant de Kabimba s'exprime.
Nous recevons ces derniers jours des déplacés en provenance de Kivu comme impact négatif la hausse des denrées alimentaires au marché, ainsi que les transports deviennent éléments à la hausse. Nous sollicitons une assistance, on ne sait pas quoi faire pour les déplacés de guerre qui sont avec nous.
L'administrateur du territoire de Kalemie annonce que les déplacés sont en train d'être identifiés et demande au gouvernement du Tanganyika de le prendre en charge. John Mutombo souligne que certains déplacés sont dans des familles d'accueil, dans des églises et d'autres se trouvent dans des sites.
Diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale fait entendre la voix de la RDC en Israël lors de sa visite en Terre Sainte. Vital Kamerhe a discuté avec son homologue israélien de l'agression subie par la RDC. En présentant ses condoléances aux familles éprouvées dans l'est du pays, Vital Kamerhe a affirmé son engagement total à soutenir le président Félix Tshisekedi pour rétablir rapidement la paix dans l'est. Écoutons Vital Kamerhe au micro de Michel Kifindangoy.
Le message que je voudrais adresser au peuple israélien et aux autorités israéliennes, c'est de dire qu'en ce moment, nous nous trouvons dans une situation similaire sur le plan de la sécurité. Nous connaissons la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, où nous avons des groupes terroristes, ADF Nalu, mais malheureusement, où nous connaissons aussi l'agression de la part de notre voisin du Rwanda. Notre détermination a toujours été la construction de la paix pour l'ensemble de la région des Grands Lacs, pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tous nos pays, y compris ceux qui nous ont agressés aujourd'hui. Nous voulons d'abord que les Rwandais comprennent que nous devons construire la paix ensemble et que tout ce qui touche à notre sécurité commune soit l'objet de discussions, de concertations et de mise en commun des efforts de tous les pays de la région.
Le report de la réunion ministérielle conjointe des États membres de l'EAC et de la SADC, initialement prévue le 28 février à Harare, au Zimbabwe, ne signifie pas un échec des efforts pour résoudre le conflit dans l'est de la RDC. Stéphanie Walters, chercheuse affiliée à l'Institut sud-africain des affaires internationales, affirme que cette décision découle des avancées réalisées lors des discussions précédentes entre le chef d'État d'État et le chef d'État-major des pays membres de la SADC et de l'EAC en février. Elle estime que le progrès enregistré et le calendrier de travail mis en place offrent une lueur d'espoir pour le rétablissement de l'autorité de l'État dans la sous-région. Stéphanie Walters s'exprime depuis l'Afrique du Sud au micro de Ronelli Ntimbonera.
Les propositions par rapport à la situation sur terrain ne sont pas mauvaises. Le timing non plus n'est pas trop long à mon avis, c'est-à-dire il y a des mesures immédiates, des mesures de moyen terme et aussi de long terme qui mèneront à rétablissement de l'autorité de l'État congolais dans les zones actuellement contrôlées par le M23 et qui inclut aussi un volet politique pour les discussions de Luanda et pour les discussions sous Nairobi. Donc je ne suis pas du point de vue que cela a échoué, mais comme je disais tout à l'heure, l'implication politique, c'est ça l'élément clé. Il est prévu qu'il y ait des discussions entre le M23 et le gouvernement congolais, ce que le gouvernement de Tshisekedi a refusé. Donc ça, c'est déjà un point de désaccord. Je crois qu'une des grandes lacunes aussi dans ce processus, c'est qu'il n'y a pas mention de la présence du Rwanda. On part du M23, on ne part pas des troupes rwandais. Pour moi, c'est quelque chose qui cloche, c'est quelque chose qui pourrait aussi mener à ce que Kinshasa ne s'implique pas.
Ce journal se poursuit sur Radio Okapi. Au Congo central, début de délivrance de permis de conduire. Cette opération lancée depuis le mardi 4 mars par le ministre provincial de transport marque un pas important vers la modernisation des documents officiels. Édouard Sambansitou a indiqué que l'introduction de permis de conduire biométrique dans la province vise à renforcer la traçabilité des conducteurs et à lutter contre l'insécurité routière. Nana plus riche Mambou.
D'après le directeur général de la Société des permis de conduire SPC, le nouveau permis de conduire biométrique intègre 22 éléments de sécurité avancés, visibles et invisibles. C'est notamment des puces électroniques et des hologrammes. Ces technologies visent à prévenir la falsification et le clonage pour garantir l'authenticité de ces documents. Pour obtenir ces documents, les requérants âgés d'au moins 18 ans doivent se rendre à la Commission nationale de délivrance des permis de conduire, CONADEP, et doivent se munir d'un brevet d'auto-école, ainsi que d'un formulaire de demande de permis de conduire qu'octroie la Robank après paiement des frais d'examen théorique et pratique. Le ministre provincial des Transports du Congo central qui a lancé cette opération souligne l'importance de cette relance de délivrance des permis en RDC après plusieurs années d'arrêt. Notons que la reprise de la délivrance des permis de conduire en RDC résulte du partenariat entre les ministères des Transports, la Commission nationale de délivrance des permis de conduire CONADEP et une firme allemande spécialisée dans les solutions de sécurité documentaire. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
À Kinshasa, le mois consacré à la femme s'annonce riche en activités. École, ONG de défense des droits de la femme et le ministère du genre se mobilisent pour offrir un programme varié qui dépasse largement la simple journée du 8 mars. Certaines de ces initiatives s'étendent sur tout le mois et touchent divers aspects de la vie quotidienne. Plotin Yambenga et Nancy Ntambo nous en dévoilent quelques-unes.
Certaines structures prévoient des séances de réflexion, également des expositions du travail réalisé par des femmes dans l'entrepreneuriat. D'autres se penchent sur la santé des femmes avec des consultations gratuites durant tous ces mois. C'est le cas à la clinique Les Magnola à la Gombe.
Son initiatrice, Victorien Babambisha, explique l'essence de cette activité.
On a pensé à donner l'opportunité aux femmes pour faire leurs consultations. On offre aussi l'échographie parce que on a constaté que les femmes présentent beaucoup de maladies et s'ignorent. Les gens viennent à l'hôpital quand la maladie s'est aggravée.
Les associations féminines ne sont pas en reste. Grace Ngike, présidente de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite, nous dit ce que son organisation a planifié.
Ça sera la signature de la charte de bonne conduite engageant les femmes des médias pour la lutte contre la désinformation et le discours de haine. La plus grande activité, ça sera la 6e édition de la foire de femmes des médias.
Investir dans les leaderships des jeunes filles, c'est le thème de la tournée qu'une autre structure, Leadership de la femme des médias, organise ces mois dans certaines écoles de la capitale. Grâce Chaco, sa présidente, revient sur les calendriers de ses activités.
On aura des activités dans 3 écoles des filles, à Matete, à Lemba, à Kasavubu, pour parler sur le leadership que les jeunes filles doivent déjà avoir.
La Congolaise au centre de toutes les ambitions, tel est le thème national de la célébration du 8 mars.
Actualité internationale.
Le Mali procède à un ajustement de sa fiscalité minière. Cette décision a été prise en conseil de ministres cette semaine. L'annonce a été faite par la primature hier mercredi dans un communiqué. Outre les décisions concernant les mines artisanales et l'orpaillage suite à la catastrophe à Cocoyo, les autorités ont décidé de revoir la fiscalité minière après l'adoption de son nouveau code minier en 2023. L'objectif était clair et reste la boussole des autorités: tirer davantage profit de la rente minière. Cet ajustement se compose de trois mesures: l'élargissement de l'impôt spécial au marbre, lingots d'or et autres produits miniers, le taux d'imposition minimale diminue de 5% à 3% et l'application du droit de timbre sur les intentions d'exportation est élargie à l'ensemble de produits miniers.
L'invité.
Construire une démocratie inclusive et résiliente en RDC, tel est le thème de l'atelier des formations qui s'est tenu mardi et mercredi à Kinshasa. Une trentaine de femmes leaders de la RDC y ont participé, échangeant sur le moyen de bâtir des démocraties résilientes répondant aux attentes de tous. Pour en parler, nous recevons l'initiatrice de cet atelier, la rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, Dominique Mounongo, est interrogé par Michel Kifindangoy.
Madame Dominique Mounongo, bonjour. Vous avez organisé une formation sur le leadership féminin et inclusif. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette formation?
Aujourd'hui, nous sommes venus pendant deux jours. Durant deux jours, nous avions eu notre partenaire. Ça venait d'un besoin des femmes parlementaires, les nouvelles élues. Et même les anciennes du reste, parce que nous sommes là avec quelques anciennes dames qui ont fait trois mandats, quatre mandats. Je peux les citer, Madame Anastasie Moleko qui était ancienne ministre, Madame Loukiana. Elles ont été avec nous pendant ces deux jours. Et pourquoi ce besoin était là? Parce que nous avons besoin, nous en tant que femmes politiques, surtout femmes parlementaires, de toujours apprendre, se mettre à niveau. C'est très important, c'est ça l'objet de cet atelier. Amener les femmes à se mettre à niveau, les anciennes, à se rappeler un peu des premiers pas et comment on doit procéder, à, soit des stratégies de plaidoyer, soit comment organiser, comment être leader en fait. Et aux nouvelles femmes parlementaires aussi, qu'elles comprennent que rien n'est jamais aisé et que rien ne tombe comme ça. Non, vous avez eu la grâce déjà d'être élue, mais il faut maintenant toujours se former, comment prendre la parole en public, comment agir, quel accoutrement avoir, quelle posture avoir. Et tous ces outils que nous avons eus pendant ces deux jours nous ont permis, je l'espère quand même pour certaines d'entre nous, de comprendre que la population attend beaucoup de nous et que nous-mêmes, nous avions pu acquérir beaucoup de connaissances.
Vous prenez pour un leadership féminin résilient, comment vous comptez implanter ce leadership?
Avec ce leadership, je crois que c'est au quotidien. Non seulement d'abord entre nous, les femmes parlementaires, il faudrait qu'il y ait plus de solidarité. Le premier jour, j'ai parlé de la sororité même des femmes politiques. C'est important parce que si entre nous, on ne parle pas le même langage. Bien entendu, on vient de partis politiques différents. On a des idéologies différentes. Mais à un moment donné, autour de la cause de la femme, autour de ce désir de dire il faut davantage les femmes en politique, il faut davantage que les femmes restent, se stabilisent. Parce que bon, nous sommes 62 sur 500. On souhaiterait qu'il y ait non seulement les 62, qu'elles soient réélues dans 5 ans, on va dans 4 ans bientôt, et qu'il y ait davantage, qu'on soit 100 femmes éventuellement sur les autres, sur 500. Donc tout cela, je crois que ça entre dans la résilience, c'est l'entretien quotidien, les dialogues entre nous, prendre le temps d'avoir ce genre de séminaire, même une fois par mois, se concerter autour de l'essentiel, au lieu de toujours être là en train de se tirailler. Parce que les conflits ne manquent pas. C'est inhérent. Là où il y a les hommes, l'être humain, les conflits sont toujours là. Mais il faut à un moment donné trouver un terrain d'entente où on se dit, ok les gars, nous, ça sera évidemment ok les dames, on évolue, on change un peu de façon de travailler.
Effectivement, vous êtes minoritaire au Parlement, mais la voix de la femme doit être entendue. Comment comptez-vous mettre en place un plaidoyer efficace pour faire entendre la voix du leadership féminin?
Non seulement à travers le réseau des femmes parlementaires. À l'Assemblée, il y a un réseau qui est informel, mais qui est reconnu, le réseau des femmes parlementaires. Donc nous sommes membres, quelques-unes d'entre nous, membres de ce réseau. Le mandat passé, j'étais rapporteur de ce réseau. Et aussi, il y a la commission égalité des chances. Donc ce sont ces deux canaux qui nous permettent, ces deux structures qui nous permettent de temps en temps, quand on se réunit, on se dit, OK, on parle un peu de la cause de la femme, la cause des enfants, de la famille. Et le bureau nous écoute. Et surtout qu'on a eu l'avantage quand même d'avoir 3 femmes. Au niveau du bureau, donc c'est déjà bien. Donc l'autre bureau est paritaire. Le président est assez ouvert. Je crois qu'il est un peu genré. Donc, et puis le prof Njoli aussi, même le professeur Chilumba et même surtout le président Bosso. Tous ils sont un peu quand même assez genrés. Donc ils nous écoutent. Nous femmes, en tout cas, quand je parle d'un problème ou d'un atelier ou d'un séminaire, ils ne sont pas contre. Ils soutiennent les actions de la femme.
La toute dernière question. Le pays traverse un moment de crise sécuritaire énorme et c'est dans ces situations que la voix de la femme est importante. Qu'est-ce que vous conseillez aux uns et aux autres pour que la paix revienne en RDC?
Moi, je suis artisan de paix, donc il n'y a que le dialogue. Je suis pour que les gens se regardent et se parlent, qu'on crève l'abcès, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi nous en sommes là, que peut-on corriger. Il n'y a que ça, parce que les armes n'ont jamais résolu un problème. Jamais, jamais de l'histoire du monde. Non, il faut s'asseoir autour d'une table, c'est là que les armes se taisent. Il faut dialoguer à un moment donné, il faut parler. Parler même de ce qui fâche, mais parler pour trouver une solution ensemble en vue de continuer.
Madame Dominique Monongo, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invitée, Madame Dominique Monongo, rapporteuse adjointe de l'Assemblée nationale, a répondu aux questions de Michel Kifindangoy. Et voilà, ce journal touche à sa fin sur Radio Okapi. À la mise en onde, Dieudonné Nyangasa, supervision Pelé Kipela Mondo, présentation Gisèle Cage. Restez connectés avec nous sur WhatsApp via le lien disponible sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et X. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de Radio Okapi.